La nuit tragique du Sémiramis par A.E.W. Mason. Après les émotions que lui avait données Aix-les-Bains la célèbre affaire dite de la Villa Rose, M. Ricardo était rentré à Londres dans son appartement de Grosvenor Square pour y reprendre la vaine existence d'un dilettante. Et il y languissait quand un matin, comme il s'attardait mélancoliquement à sa table devant son petit déjeuner, la porte s'ouvrit. Un homme d'épaisse carrure, à menton bleu de comédien, s'élança dans la chambre. Ricardo bondit vers lui en poussant un cri de joie. « Mon cher Arnaud !» Agrippant son visiteur par le bras, il le tâtait, comme pour s'assurer que c'était bien là, en chair et en os, Arnaud, son ami Arnaud, l'inspecteur de la Sûreté parisienne, le héros d'Aix-les-Mains, l'homme qui lui avait procuré les sensations les plus aiguës de sa vie. Il se tourna vers son maître d'hôtel. « Merton, lui cria-t-il, un second couvert, tout de suite. » Et quand il fut seul avec Arnaud, « Quel bon vent vous amène en Angleterre ?»« Une affaire de service, mon ami. La disparition d'un lingot d'or entre Paris et Londres. Mais c'est fini, je me donne vacances. » Arnaud ne vit pas la déception de son ami. Il avait pris sur la table une pièce d'argenterie et la portait à la lumière. « Allons, tout est bien comme il doit être. » dit-il avec un sourire du coin des lèvres. Grosvenor Square, le Times, ouvert à la page financière, un faux objet ancien sur la table. Mes rêves n'auraient pas autrement situé, monsieur Ricardo. Ricardo eut un rire nerveux. Connaissant l'humeur sarcastique de Arnaud, il fut aussitôt sur ses gardes. Cependant, la porte s'était rouverte, le maître d'hôtel venait de reparaître, mais seul cette fois. « Monsieur Caladine voudrait vous parler, monsieur. »« Caladine ?» s'écria Ricardo au comble de la surprise extraordinaire. Il regardait la pendule de la cheminée, 8h30, tout juste. « Et de si bon matin, monsieur Caladine est encore en tenue du soir, » dit le maître d'hôtel. Ricardo eut un sursaut. Il commençait à rêver d'événements singuliers. Et par miracle, Arnaud était là. « Où avez-vous mis, monsieur Caladine ?» demanda-t-il. « Dans la bibliothèque. J'y vais. » Mais il ne bougea pas. « Étrange, » fit-il, « étrange. Je n'ai pas vu Caladine, ou plus exactement, nul ne l'a vu depuis des mois. Alors que peu de temps auparavant, il n'y avait personne qu'on vit davantage. » Arnaud émit un grognement de résignation et Ricardo lâcha tout d'un trait. Caladine était un des jeunes espoirs de l'Angleterre. On le proclamait destiné à faire des prodiges, sitôt qu'il aurait décidé quelle sorte de prodige il voulait faire. En attendant, on le rencontrait en Écosse, à Newmarket, à Ascot, à Cowes, dans la loge de quelques grandes dames à Covent Garden, dans toute maison élégante où s'allumaient les lustres. Un jour, il n'alla plus nulle part. Point de scandale, point d'histoire fâcheuse, il s'évanouit simplement. On ne l'apercevait même plus dans la rue. Et voici qu'inopinément, à 8h du matin, en tenue de soirée, il se présente chez moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un sourire s'épanouit sur la figure de Arnaud. Sans doute vous proposez-nous de le lui demander ? Ricardo se redressa. Avant de m'engager dans une discussion sérieuse avec quelqu'un de ma connaissance, j'essaye toujours de revivre les impressions que j'ai eues de sa personnalité. Vous trouverez les cigarettes dans le coffret de cristal. Il sortit à grands pas. 5 minutes plus tard, il rentrait dans la pièce. Il ne se possédait plus. « Quelle heureuse fortune, mon ami » s'écria-t-il, « que vous ayez choisi ce matin pour me rendre visite. » Arnaud fit la moue. « Adieu, mon petit congé » soupira-t-il. « Je vois bien qu'il me faudra toujours subir vos exigences. » Il se leva et suivit Ricardo à son cabinet de travail. Un jeune homme était là, qui, le dos tourné à la porte, arpentait fébrilement le plancher. « Monsieur Caladine, voici Arnaud, » dit Ricardo. Le jeune homme se retourna. Il était grand, très élégant, très distingué, et d'une beauté de trait que ne parvenait pas à altérer une agitation trop visible. « Heureux de vous connaître, monsieur, » dit-il à Arnaud. « Vous n'appartenez pas à la police de ce pays. Vous pouvez donc, si vous le voulez, m'assister de vos conseils sans avoir à intervenir en personne. » Arnaud se renfrogna. « Expliquez-vous. » dit-il avec une pointe de sévérité. « Je m'explique. » Un frémissement courut dans la voix de Caladine, cependant qu'il poursuivait. Je ne sais que faire. Je suis dans une difficulté qui me dépasse. » Alors, Anno, d'un ton plus amical, « Asseyez-vous et parlez. » Et lui-même, il avança une chaise près de la table. « J'étais la nuit dernière au Sémiramis, » reprit Kaladin, désignant par ce nom un des grands hôtels qui borde la Tamise. « On y donnait un bal costumé. » Ceci se passait au jour d'avant la guerre, alors que Londres rivalisait en gaieté avec ses voisines du continent et les éclipsait même de son luxe. J'y allais par le plus pur des hasards. J'habite l'Adelphi Terrace. L'Adelphi Terrace, est-ce possible ? S'écria M. Ricardo. Un signe de Anno mit ordre aux interruptions. Oui, continua Kaladin. La nuit était chaude. Les sons de l'orchestre, entrant par ma fenêtre, remuaient en moi de vieux souvenirs. J'avais une carte pour le bal, j'en profitais. Kaladin tirait un siège à lui en face de Anno, s'assit, et d'une voix troublée se mit à débiter une histoire qui parut à Ricardo fabuleuse comme un conte arabe. Donc, j'avais une carte, mais pas de domino, si bien qu'arrivé dans le vestibule, sur le palier dont l'on accédait en contrebas à la salle de bal, je fus arrêté par un commissaire. « Monsieur Kaladin, me dit-il, vous trouverez un domino de location au vestiaire. » Déjà, je regrettais le mouvement irréfléchi qui m'avait poussé là, et j'accueillis sans déplaisir le prétexte que me fournissait, pour m'en revenir, le manque de costume. Mais à cette seconde même, une jeune femme, descendue en courant de l'étage supérieur, se précipitait sur moi et me criait « J'ai ce qu'il vous faut !» Et se disant, elle me lançait un long manteau écarlate qu'elle portait par-dessus son costume. Elle était blonde, grande, svelte, jolie. Ses cheveux, ramenés en arrière du front par un ruban, lui tombaient en lourdes ondes sur les épaules. Elle portait un habit de satin vert pâle et d'or, avec culotte à l'avenant, gilet blanc, bas de soie, souliers à talons rouges. Ainsi vêtue, droite comme un garçon, elle avait le charme exquis d'un Saxe. Je pris le manteau, j'allais la remercier, elle ne m'en donna pas le temps, elle dégringola, silhouette brillante et agile, les marches conduisant au bal, et se perdit dans la foule. Je me jetai à sa poursuite. Je la vis arrêtée non loin de l'entrée, seule, contemplant la scène, bouche bée, les pupilles dansantes. Elle m'aperçut drapée dans son manteau et partit d'un éclat de rire qui était un gazouillement délicieux. « Puis-je me permettre ? » lui dis-je. « Mais comment donc ? » répondit-elle. Déjà, elle agrafait ses mains aux miennes et partait bondissante. Elle débordait d'entrain. Elle sut, à peu de frais, sauver les formes. « Comme vous voyez, je sors tout droit d'un opéra. Mon nom est Célimène, ou tout autre à votre convenance. Quant au vôtre, qu'il soit ce qui vous plaira. Nous sommes ce soir deux amis. Et demain ? » lui demandai-je. « Je vous le dirai plus tard. » Là-dessus, elle m'entraîna dans la danse. Elle avait une légèreté, un feu merveilleux. Nous dansions depuis près d'une demi-heure quand se produisit le premier incident bizarre. Célimène s'interrompit soudain au milieu d'une phrase. On eût dit qu'elle avait la respiration coupée. Je lui parlais. Elle ne m'entendit pas. Elle regardait par-dessus moi. Ses yeux exprimaient un ravissement dont je ne me rappelle point le pareil. Elle était comme en extase. Je suivis la direction de son regard et m'étonnais de ne voir qu'une grosse petite dame, ni jeune ni vieille, fastueusement parée en Marie-Antoinette. « Vous connaissez donc quelqu'un ici ?» lui demandai-je. Je dus répéter ma question pour qu'elle détournât le regard. Mais sa pensée ne me revint pas tout de suite. Lorsqu'enfin elle reprit conscience, car il n'y a pas d'autre mot pour traduire la chose, elle exhala un gros soupir. « Non, » me répondit-elle. « Cette dame est une Madame Lumenstein de Chicago, veuve et prétentieuse autant que riche. Je ne la connais pas, mais nous avons fait la traversée sur le même navire. Vous ai-je dit que j'ai débarqué à Liverpool ce matin ? Madame Lumenstein est, comme moi, descendue au Sémiramis. Dansons !» Elle me tira impatiemment par la manche et se mit à danser avec une véhémence presque furieuse. Nous soupâmes, et comme il arrive souvent en ces occasions, elle glissa peu à peu aux confidences. Elle me dit son vrai nom qui était Jane Carrow. « Je viens en Angleterre tenter de décrocher un engagement à Covent Garden. On prétend que je ne chante pas trop mal. J'ai fait mon éducation musicale en Italie, mais ici je ne connais personne. Vous avez des lettres d'introduction, sans doute ? Oui, deux. Une de mon professeur de chant à Milan, une autre d'un directeur américain. À mon tour, je lui dis mon nom. Je lui remis ma carte. Je pensais que par mes relations dans le monde des théâtres et de la musique, je pouvais lui être utile. « Merci, » me dit-elle. À ce moment, Madame Lohmenstein, suivie d'un groupe de jeunes gens, entra dans la salle où nous soupions et vint occuper une table voisine. Ce fut entre Jane Carew et moi la fin des propos intimes. Elle perdit toute liberté d'esprit, ne parla plus qu'à tort et à travers, ne quitta plus des yeux l'injurieuse caricature de Marie-Antoinette. Cela ne tarda pas à m'agacer. « Si nous revenions au bal, » proposai-je, à quoi elle répondit dans un murmure avec une exaltation inexplicable. « Oh oui, revenons, je vous en prie. » Nous regagnâmes la salle de bal. Mais c'en était fait de la gaieté de Jane. Et au beau milieu d'une danse, quand nous étions près de la porte, elle s'arrêta. « Je m'en vais, » déclara-t-elle. « Je suis fatiguée, je deviens stupide. » Je protestais, elle fronça les sourcils. « Vous m'auriez prise en grippe dans une demi-heure. Soyons raisonnables. Restons-en là. » Jugeant inutile d'insister, je lui avais rendu le manteau d'écarlate quand elle se baissa vivement, et il me sembla qu'elle ramassait sous son pied quelque chose. Elle avait, en tout cas, bougé le pied, j'en suis certain, comme je le suis d'avoir vu quelque chose briller dans la paume de son gant lorsqu'elle se redressa. Sans doute, pensai-je, un objet qu'elle avait laissé tomber à terre. « Allons, » dit-elle. Je l'accompagnai jusque sur le palier. « Nous nous reverrons ?» lui demandai-je. « Oui, j'ai votre adresse. Je vous écrirai, pour vous fixer un jour et une heure. Bonne nuit et mille remerciements. Je me serais ennuyé à pleurer si vous n'étiez venu sans domino. » Elle dit cela d'un ton badin, mais sa main serra, puis emprisonna la mienne. Sa bouche se contracta, ses yeux s'obscurcirent. Un grand trouble subit l'avait comme enveloppé d'ombre. « Si stupide que je me sente, » dit-elle, « j'inclinerai presque à vous demander de rester encore et de danser avec moi jusqu'à ce que vienne le jour rassurant. » C'était une drôle de phrase. Elle me toucha. « Eh bien, restons. » Miss Carew me donnait l'impression d'une totale détresse. Néanmoins, elle reprit aussitôt courage. « Non, non !» Elle retira sa main, monta l'escalier et, parvenue à la dernière marche, se retourna pour me dire adieu du geste et du sourire. Il était 1h30 du matin. Anno et Ricardo avaient écouté Caladine sans l'interrompre. Il est vrai que 1000 questions se pressaient aux lèvres de Ricardo, mais il se contenait, Anno lui inspirant une crainte salutaire. La première pause de Caladine lui parut une occasion favorable, qu'il saisit. « Hein ?» dit-il. « 1h30 ? À quelle heure êtes-vous donc rentré chez vous ?» dit Anno. Caladine n'avait pas un souvenir bien exact de l'heure. Jane Carew avait déterminé chez lui des sentiments très mêlés, très complexes. Ils étaient ensemble intrigués, obsédés, charmés. Dormir lui paraissait impossible. Il resta donc un certain temps à rôder autour du bal. Puis il s'en revint à pied chez lui par les rues bourdonnantes d'écho et s'assit à sa fenêtre. Il y était depuis un instant lorsqu'une trompe d'auto meugla. Un taxi vint se ranger bruyamment contre le trottoir au-dessous. Bientôt la sonnette de l'entrée se fit entendre. Très excité, il descendit l'escalier 4 à 4, déverrouilla la porte, l'ouvrit. Et Jane, toujours travestie, le manteau écarlate sur les épaules, se glissa par l'ouverture. « Fermez la porte !» murmura-t-elle en allant se blottir dans un coin. Caladine remit le verrou. Dans le noir du vestibule, il ne distinguait que la tache pâle du visage de Jane et le reflet de son costume. Elle haletait comme après une course. Il la fit monter avec 1000 précautions. Il ne prononça pas un mot avant qu'il ne l'eût introduite dans son salon, et c'est à voix très basse qu'il lui demanda « Qu'est-ce qui vous arrive ?»« Vous vous rappelez, dit-elle, la personne que je regardais au bal avec tant d'attention. Vous ne saviez pas ce qui attirait ainsi mon regard, mais aucune femme ne s'y fut trompée. Elle portait les plus belles perles que j'ai vues de ma vie. » Debout, Jane, tout en parlant, traçait du doigt des arabesques sur le tapis de la table. Un horrible pressentiment fit tressaillir Caladine. « Oui, » continua-t-elle, « j'adore les perles, depuis toujours. D'ailleurs, j'ai sur elles une heureuse influence. Non pas que j'ai jamais eu de perles, je suis pauvre, mais des amis à moi m'en ont quelquefois prêté de malades. Et sitôt que je les portais, elles recouvraient leur lustre. Jamais je n'ai rien tant désiré que d'en avoir, Je me suis demandé, certains jours, si je ne leur sacrifierais pas mon âme. Elle parlait d'une voix sourde, mais n'évoquait pas moins à l'esprit de Kaladin l'extase qu'il avait illuminée à la vue des perles, le transport qu'il avait ravi, et la fureur avec laquelle, ensuite, elle avait dansé pour secouer l'obsession trop lourde. « Je n'avais pas, dit-il, remarqué les perles de cette dame. Elles étaient admirables, une couleur, un orient. L'idée m'exaspérait que cette grossière créature portât de si rares merveilles. » Elle couvrit son visage de ses mains et chancela. Kaladin bondit vers elle. « Ce n'est rien, dit-elle. Vous vous souvenez que je m'arrêtais tout à coup au milieu d'une danse ?»« Oui. Vous cachez quelque chose sous votre pied. Une clé, celle de l'appartement de Madame Blumenstein. » Kaladin étouffa un cri. Pour la première fois depuis son entrée, Jane Carew leva la tête et le regarda. Il y avait de la terreur dans son regard. « Une petite clé, Yale. » Madame Blumenstein avait l'air de chercher des yeux un objet tombé à terre. Et je venais de voir la clé à un pas de moi. L'appartement de Madame Blumenstein se trouve au même étage que le mien. Sa femme de chambre dormait à l'étage supérieur comme du reste toutes les femmes de chambre. Je le savais. Oh, dans ce moment, il me sembla... À présent, Kaladin comprenait ce qu'elle avait voulu dire par sa drôle de phrase sur le jour rassurant. Je montai à ma chambre, je m'assis, et serrant dans mes doigts la clé qui, à travers le gant, me brûlait la peau, j'attendis tout le temps que je jugeais nécessaire pour que Madame Blumenstein s'endormît. Elle hésitait devant chaque mot, se décidait à le prononcer, puis replongeait dans sa confession. Enfin, j'enfilai le corridor. Il n'était que faiblement éclairé. En bas, au loin, palpitaient les accords de l'orchestre. Autour de moi régnait un silence de sépulcre. J'ouvris la porte, sa porte. Je me trouvai dans une antichambre. L'appartement de Madame Blumenstein, bien que plus grand que le mien, présente des dispositions identiques. J'entrai, je refermai la porte derrière moi, m'avançai jusqu'à la porte intérieure. Le cœur me battait à m'étouffer. J'étais encore à temps de repartir. Mais je ne pouvais pas. J'avais toujours devant les yeux ces perles magnifiques. J'entr'ouvris doucement la porte et puis tout se passa dans une seconde. Jane balbutiait. Elle ferma les yeux et s'affaissa sur un siège. Son manteau lui coula des épaules. Kaladin, en se penchant pour le ramasser, jeta une exclamation. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle dans un sursaut. « Rien, continuez. » J'étais dans la chambre. Un spasme de frayeur m'avait fait refermer la porte. Je n'osais plus la rouvrir. Je restais là, paralysé, réduit à l'impuissance. Madame Blumenstein s'était réveillée. Jane hocha la tête. « Il y avait d'autres gens dans la chambre, des hommes. » Kaladin recula, escrutant le visage de la jeune femme. Ensuite, je ne les vis pas tout d'abord. Je ne les entendis pas. La chambre était noire, sauf qu'un jet de lumière très vive frappait un coffre-fort. Au moment où je fermais la porte, le jet, subitement déplacé, tomba sur moi et se fixa. Il me tenait prisonnière, frissonnante. Puis j'entendis un rire tranquille, une ombre s'approcha. La peur me rendit l'usage de mes membres, je me retournai pour sortir. Trop tard. Une main s'abattit sur ma bouche, on me souleva, on me porta au centre de la chambre. Le jet de lumière s'évanouit, l'électricité s'alluma. J'étais en présence de deux hommes masqués, vêtus avec des pantalons de velours et des foulards rouges. Je me débattis. Attachez-lui les jambes, chuchota celui qui me tenait. Je vois encore l'autre, un grand diable, les épaules hautes, le cou engoncé, la démarche déhanchée. Il me lia les chevilles et je perdis connaissance. Ensuite, réitéra Kaladin, quand je revins à moi, l'électricité était encore allumée, le coffre-fort ouvert. Il n'y avait plus personne dans la chambre. Je me trouvais débarrassé de mes liens et couché sur un canapé au pied du lit. Le coffre était-il vide? Je ne m'occupais guère du coffre, je regardais le lit. Une forme humaine s'y allongeait sous le drap, dans une immobilité singulière. J'étais à demi-morte d'effroi. Je sentais que, si je ne quittais la chambre à l'instant, je perdais la tête. Crier, c'était vouloir ameuter les gens. On viendrait, on me trouverait à cette place avec ce qu'il y avait dans le lit, sous le drap. Je courus à la porte. Le corridor était toujours désert. Je descendis furtivement l'escalier sans rencontrer personne, et m'arrêtant sur le palier, je feignis d'y chercher quelqu'un. Je restai là, suffisamment pour m'y faire voir. Puis je hélai un taxi et je donnai au chauffeur votre adresse. Quel autre aurais-je pu donner? Je ne connais que vous à Londres. » Kaladin, muet, observa la jeune femme. Enfin, d'une voix dure, « C'est tout ce que vous avez à me dire? Oui, vous en êtes sûr ?» Perplexe devant cette insistance, elle réfléchit un moment, puis « Très sûr. » Kaladin se leva, s'approcha d'elle. « Alors d'où vient que vous portez ceci ? » dit-il en soulevant une chaîne de platine ornée de brillants qui lui tombait du cou. « Vous ne l'aviez pas sur vous, au bal ?» Elle fixa sur la chaîne des yeux hagards. « Non, cet objet ne m'appartient pas. C'est la première fois que je le vois. » Soudain, ses yeux s'éclairèrent. « Les deux hommes. Ils m'auront passé la chaîne autour du cou avant de partir, alors que j'étais inanimé. Oui, voilà, elle n'est pas d'un très grand prix. Ils pouvaient la sacrifier pour... qu'elle m'accusât de leur crime. » « Raisonnement logique, » dit froidement Kaladin. Elle le dévisagea. « Vous ne me croyez pas? Vous croyez peut-être ?» Le prenant par les bords du veston, elle éclata en dénégation passionnée. « Pourtant, objecta-t-il avec douceur, vous alliez dans cette chambre pour y voler ?»« Non, pas pour y voler, non. Pour voir, pour toucher, pour assasier mes yeux de ce que vous savez. » Une folie qui me poussait. « Mais cette chaîne, l'aurais-je volée? L'aurais-je mise sur moi pour venir chez vous, si j'avais pris les perles, si mon histoire était un mensonge ?» L'argument ébranla Kaladin. Après réflexion, il dit « Je ne le pense pas. » De fait, il penchait à croire Jane. Sa seule vue rendait monstrueuse l'idée qu'elle fût une meurtrière. Au surplus, elle ne jouait pas d'un hypocrite repentir. Elle avait cédé à une tentation. Elle s'était jetée dans une impasse d'où elle ne savait comment sortir. Elle ne dissimulait rien. Kaladin consulta la pendule. Il était 5 heures du matin. La nuit commença à décroître sur la Tamise. « Vous allez rentrer à l'hôtel, » dit-il, « je vous accompagne. » Le Sémiramis était à 2 pas. Dans le Strand, des gens costumés stationnaient ou se répandaient en quête de taxi. Aux voix des chauffeurs se mêlaient des bruits de départ. La rue en résonnait toute. « Vous pouvez passer inaperçu, » fit Kaladin, inspectant d'un coup d'œil la cour de l'hôtel regorgeant de monde. « Je vous téléphonerai dans la matinée. »«
Vous me le promettez ?»
s'écria-t-elle.
« Certainement, »
répliqua-t-il. « Ne sortez pas avant mon appel. Je vais réfléchir et ferai pour vous le possible. »«
Merci, »
dit-elle avec ferveur. Il regarda les ailes du manteau écarlate battre un instant au milieu des groupes avant de disparaître. Puis il reprit pour la 2e fois le chemin de son domicile. Telle fut l'histoire que raconta Kaladin dans la bibliothèque de M. Ricardo. M. Ricardo, en l'écoutant, passa par des émotions diverses. Et tout d'abord, il éprouva cette légère angoisse dont on ne peut se défendre au seuil du mystère et du drame. L'aventure parlait à sa sensibilité par une sorte d'éclatante bizarrerie. Cependant, à la réflexion, elle l'inquiéta et le déconcerta. Elle montrait des fissures, des lacunes. 1000 critiques se formaient en lui, vives et subtiles, et qu'il n'osait exprimer tout haut. Anneau, d'autre part, avait écouté jusqu'au bout sans qu'un geste livre à rien de ses sentiments. Et la question que M. Ricardo tenait comme déplacée, ce fut lui qui la posa à l'improviste. « Donc, M. Kaladin, vous êtes définitivement rentré chez vous à 5 heures du matin, et il est maintenant 9 heures moins quelques minutes. »«
Oui. »«
Cependant, vous n'avez pas changé de vêtements. Expliquez-moi cela. Qu'avez-vous fait entre 5 heures et 8 heures et demie ?» Kaladin, baissant la tête, parut interroger son plastron de chemise fripé.
« Ma parole, » s'écria-t-il, « je ne m'en doute même pas. » La fatigue avait aboli en moi la pensée. Je ne savais à quoi me résoudre. Enfin, je décidai d'aller causer avec M. Ricardo. Et ces décisions prises, j'attendis avec impatience l'heure où je pourrais décemment me présenter chez lui.
Anneau se leva. Grave et toujours si fermé, il se tourna vers Ricardo. « Allons reconduire votre ami, » dit-il. Les 3 hommes sortirent. Il y avait sur le chambranle quelques photographies, une boîte de cigares. 1 ou 2 livres entre 2 fins bibelots en porcelaine, au fond, dans un cadre d'or, une petite gravure penchée contre la muraille. Ricardo, de son siège près de la fenêtre, regardait le dessus du chambranle, mais sans concevoir ce qui captivait ainsi l'attention de Anneau. Finalement, Anneau se rapprocha de la cheminée, scruta la profondeur d'un vase, le renversa. Puis il souleva le couvercle d'une coupe de porcelaine, et le seul aspect de ses épaules annonça qu'il avait enfin découvert l'objet de ses recherches. Il le tenait dans ses mains,
le tournait et le retournait. Quand il l'eut suffisamment examiné, il alla sur la pointe des pieds jusqu'à la porte, l'ouvrit avec précaution, et l'on entendit un clapotement d'eau agitée dans une baignoire. Alors il referma la porte et remonta vers la fenêtre. « Oui, dit-il, tout cela est bien étrange. Et je ne regrette pas que vous m'ayez jeté de force dans cette affaire. Vous aviez raison ce matin, mon ami. La personnalité de votre jeune monsieur Caladine est le plus intéressant élément du cas qui nous occupe. Nous voici à Londres au début de l'été. Les arbres sont dans leur premier feuillage. Il y a je ne sais quel émoi d'heureuse attente dans l'atmosphère et la lumière. Je suis d'âge mûr et néanmoins j'ai dans le sang comme un revis de jeunesse. N'éprouvez pas vous aussi quelque chose de semblable? Oui? Eh bien, alors. Comprenez-vous qu'un jeune homme ayant de la fortune, de la mine, des goûts délicats, se voue en cette saison à l'existence la plus retirée s'il n'a pour cela des raisons puissantes? Moi, je ne le comprends pas. Autre chose, j'ai posé une ou deux questions à M. Caladine. En effet, dit Ricardo, il éloigne ses domestiques la nuit. Il vit très seul. Il n'a pas même un palais de chambre. Bagatelle, penserez-vous? Bagatelle significative, dans le cas d'un homme jeune et riche. Indice qu'il y a dans sa vie quelque chose d'anormal, peut-être de funeste. M. Caladine a tourné un beau jour au coin de Saint James et passé sur la Delphie. Savez-vous pourquoi? Non, et vous? Anno tendit le bras. Dans sa paume ouverte, il y avait un petit bulbe rond et velu de la taille d'un gros bouton de fleur et d'une couleur grise tirant sur le brun. Voyez, dit-il, qu'est-ce que cela? Ricardo, surpris, regarda le bulbe. On dirait le fruit d'une espèce de cactus. Vous y êtes? Tous les grands jardins botaniques du monde ont dans leur serre quelques pots de cette plante. On la désigne en science sous le nom d'Abalonium luini. Mais les Indiens du Yucatan lui donnent un nom plus simple. Lequel? Demanda Ricardo. Le mescal. Ce nom qu'il répéta n'éveillait chez Ricardo aucune notion précise. Il y a, reprit Anno, un bon nombre de ces bulbes dans la coupe de Chine sur la cheminée. Eh bien, le mescal est une drogue. Ricardo fit un haut-le-corps. Allons, poursuivit Anno, vous commencez à comprendre pourquoi, un beau jour, votre jeune ami Caladine a passé de Saint James Street sur Adelphi Terrace. Ricardo tournait le petit oignon entre ses doigts. On en a fait une décoction, sans doute. Ou l'on en use à la façon des Indiens du Yucatan. Le mescal est un des ingrédients de leur pratique religieuse. Accroupi la nuit, autour d'un brasier dans la forêt, ils mâchent le mescal tandis que l'un d'entre eux bat infatigablement du tam-tam. Anno explora la chambre d'un regard qui enregistrait le luxe des tapis, l'élégance rare des meubles. Par la fenêtre montait de la rue un grondement de tonnerre, un brouhaha de voix. Des bateaux filaient sur le fleuve avec la marée descendante. Plus loin que la masse du Sémiramis, s'arrondissait le dôme gris clair de Saint-Paul. En face, sur la rive sud, les arbres des jardins se balançaient et bruissaient. Le jeune été emplissait l'espace de scintillements et de transports. « La distance est longue, » dit Anno. Des forêts du Yucatan à la Delphi Terrace de Londres. N'empêche qu'une fois les serviteurs congédiés, quand la maison repose, vous trouverez, je crois, dans l'appartement que voici, un coin du Mexique sauvage. » Une expression de pitié revêtut le visage de Anno. Combien il en avait vu de ces jeunes hommes devant qui s'ouvrait un bel avenir, s'arrêter en chemin et tout sacrifier à l'amour de quelques drogues. Apparemment, Caladine était du nombre. « Votre mescal, dit Ricardo, c'est, je pense, quelque chose comme la coco, la morphine ou un tas de saletés pareil. » Et dans son indignation, il rejeta le bulbe sur la table. Anno se hâta de l'y reprendre. « Non, le mescal ne ressemble à aucune autre drogue. Il a une propriété spécifique dont vous et moi ne saurions, dans le cas présent, nous exagérer l'importance. « Oui, mon ami. » Et l'inspecteur appuyait ses mots d'énergique hochement de tête. « Nous devons, en cette affaire, bien prendre garde de nous rendre ridicules. » Là, dit Ricardo, avec un air de sagesse ineffable, là, je suis entièrement de votre avis. Et savez-vous ce qui me fait parler de la sorte? Non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. C'est que non seulement le mescal intoxique, mais c'est qu'il donne à qui en mange des rêves de couleur. Des rêves de couleur? Des rêves violents, brûlants, où les événements s'animent des couleurs les plus chaudes. La couleur est le don de ce prosaïque petit bouton brun. Il lança le bulbe dans l'air comme une pièce de monnaie, le rattrapa au vol et le rapporta à la place où il l'avait pris sur la cheminée dans la coupe de Chine. « Vous en êtes sûr ?» cria Ricardo, très animé. « Parfaitement sûr. J'ai pour ami un très docte chimiste du Collège de France. Il est de ces enthousiastes qui expérimentent sur eux-mêmes. Il a goûté du mescal. Et, demanda Ricardo un peu plus calme, qu'a-t-il vu ?
Un jardin magnifique, baigné de soleil.
Partout des fleurs somptueuses, des pelouses d'émeraude, des étangs bordés de lys d'or, des pans indolents, des ifs taillant haies. Partout des groupes joyeux, en costume de féerie, se querellant, s'escrimant de l'épée. Et cela était d'une vie si prodigieuse que les vapeurs de la drogue, une fois dissipées, mon ami crut sortir du monde réel pour entrer dans un monde d'illusions changeantes. La forte voix de Hanno se tut. Le silence régna dans la pièce. Ricardo fit du regard le tour des murs. Il avait peine à comprendre qu'une chambre où le mystère trouvait asile aux sombres heures eut, dans la lumière matinale, tant de gaieté, de fraîcheur et d'innocence.
« Sortir du monde réel, » murmura-t-il,
« je commence à comprendre. »«
Oui, mon ami, vous commencez à comprendre que nous devons avoir grand soin d'éviter le ridicule. »
Mon chimiste du Collège de France voyait un jardin. Mais imaginez-le à la place où vous êtes, devant la fenêtre, un soir d'été, à l'heure où se donne le bal du Sémiramis. Ne verra-t-il pas, peut-être, la salle de fête, les danseurs, le manteau écarlate et tout le reste ?
Ce qui veut dire, s'écria Ricardo, éperdu de surprise, qu'au moment où Caladine va chez moi, les fumées du mescal lui brouillant encore le cerveau, il continue à prendre pour réel un monde imaginaire.
Ça, répondit Hanno, je l'ignore. Pour l'instant, je me borne à poser la question. Raisonnons le problème. Mettons que Caladine prenne la drogue à dose beaucoup plus forte que mon professeur. Elle aura sur lui un effet beaucoup plus profond et plus durable. Un bal travesti est pour Caladine chose familière. La musique du Sémiramis ravivera chez lui de vieux souvenirs. Il est là, sur sa chaise, devant lui la fête s'évoque. Il s'y voit prendre part, et il en jouit, dans sa quiétude, tout autant qu'il le fait au Sémiramis. Car, si fut-il transporté, elle ne lui eut pas donné un sentiment de réalité plus pénétrant ni plus fort. Il vit de bout en bout son histoire. Et cette histoire d'un cerveau échauffé se développe en lui avec tout le caprice d'un rêve. Elle s'assombrit, elle devient tragique, elle l'oppresse d'horreur. Il en est, ce matin encore, si possédé que, sans changer de vêtements, il vient frapper à votre porte. Ricardo plissa le front, Hanno s'exclama.
Mon raisonnement vous paraît avoir une paille ?
Daignez m'écouter, fit Ricardo timidement.
Donc, à votre avis, les perles de Madame Blumenstein, la tentative de vol, le meurtre, tout cela ne serait qu'un rêve ?
En un mot, il n'y aurait pas eu de Célimène.
Je ne vais pas si loin, riposta vivement Hanno. Je n'affirmerai pas qu'il n'y ait pas eu de Célimène. Tenez, mon ami, suivez-moi.
Souriant, il traversa la chambre. Il avait l'instinct dramatique. Il en jouait. Il marcha vers la cheminée et s'arrêtant à quelques pas.
« Voyez, » dit-il.
Ricardo regarda sans voir autre chose qu'un grand dessus de cheminée à dents. Il tourna vers son ami un visage effaré.
« Vous ne voyez pas ?» demanda Hanno. « Que faut-il que je voie ?
Regardez encore. Je n'affirme rien. Mais n'est-ce pas Célimène en personne qui pose devant vous ?»
Ricardo regarda de plus belle.
Qu'avait-il là qui dut fixer son attention ? Un ou deux livres, un ou deux vases ?
Puis rien qu'un très joli et sans doute très précieux objet de bonté divine.
Ricardo venait de comprendre. Juste en face de lui, au centre de la tablette, un personnage de porcelaine peinte s'appuyait à une barrière de porcelaine. Type accompli du petit maître à talons rouges, invraisemblablement exquis et féminin, et qui s'appareillait de pied en cap à Jane Carew, telle que l'avait décrite Caladine. Hanno rit de plaisir devant la mine que faisait Ricardo.
« Nous y voilà, » dit-il, « à la bonne heure. »
« Rêvez-vous quelquefois ?»«
Oui, naturellement, comme tout le monde.
Vous rappelez-vous vos rêves ?
Des choses, des gens que vous avez vus peut-être le jour même, peut-être il y a des mois, entrent et sortent, vont et viennent, sans que vous les ayez priés.
Le sens de leurs évolutions vous échappe.
Parfois, pourtant, la cocasserie de leurs gambades se mêle de quelque logique à cause de certaines associations d'idées dont vous n'aurez plus conscience dans l'état de veille.
Représentez-vous Caladine assis à cette fenêtre et sous l'influence de sa drogue. Il entend la musique du Sémiramis. Sa tête échauffée devient un théâtre où le rideau se lève. Il monte lui-même en scène et y rencontre qui ?
Le personnage de porcelaine venu en droite ligne de la cheminée.
Ricardo eut un instant d'enthousiasme, mais bien vite ses doutes le ressaisirent.
Ce que vous dites est fort ingénieux, mon cher Hanno. C'est aussi un témoin fort convaincant que le personnage de porcelaine. Et ma foi,
je m'avouerai convaincu, n'était un détail. Lequel ? Je suis, permettez-moi de le croire, un homme du monde. Or, je me demande si un homme du monde, jeune, qui a rompu tous ses liens sociaux et s'est fait ermite, qui, de surcroît, s'est asservi à une drogue, garderait ce souci de lui-même, de sa dignité corporelle, que dénote le fait de s'habiller pour dîner tout seul. Anno frappa du poing sur la table et s'assit. « Oui, c'est le point faible de mon système. Vous y avez mis le doigt. Assurément, l'esclave d'une drogue est insoucieux, négligé, malpropre même en règle générale. Mais pas toujours. Soyons prudents. Attendons. » « Quoi ?» demanda Ricardo. « La réponse à un appel téléphonique, » répondit Anno avec un mouvement de la tête vers la porte. L'absence de Caladine se prolongeait. Il finit par apparaître en costume de serge bleu, l'œil plus clair, la peau plus saine, l'air plus honorable, mais visiblement, il était gêné. Il offrit à ses visiteurs des cigarettes, il leur proposa des rafraîchissements, il évita toute allusion à l'objet de leur visite. Anno sourit, sa théorie se vérifiait. Dégrisé par son bain, Caladine se rendait compte de la folie qu'il avait commise. « Vous avez, n'est-ce pas, lui dit Anno, téléphoné au Sémiramis. « Mais oui, balbutia-t-il. Et pour quand pouvons-nous espérer, Miss Carew ?»« Je ne sais. » Elle n'était pas à l'hôtel. C'est drôle. Je crains qu'elle n'ait pris la fuite. Anno et Ricardo échangèrent un coup d'œil. Tous les deux étaient pleinement édifiés. Il n'y avait pas un mot de vrai dans l'histoire de Caladine. « Alors, nous n'avons aucune raison de vous imposer notre présence, » dit Anno. « Tout compte fait, j'aurai ma petite vacance. » Tandis qu'il parlait, la voix d'un camelot criant la première édition d'un journal du soir commença de se faire entendre à distance. Il écouta. La tête penchée, saisit son chapeau, sa canne, et sans ajouter un mot, se précipita dans l'escalier. Ricardo le suivit, mais quand il fut dans la petite rue, déjà son ami l'avait descendu à moitié. Cependant, arrivé au coin, Anno s'arrêta, et Ricardo le rejoignit, tout sans avoir couru trop vite. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il tout essoufflé. « Écoutez, » lui dit Anno, « en bas de Duke Street, près de la gare de Charing Cross, le camelot criait les nouvelles. » Les mots, bien que déformés, parvenaient déchiffrables à l'oreille des deux hommes. « Un crime mystérieux au Sémiramis !» Ricardo se retourna vers Anno. « Vous trompiez donc, s'écria-t-il, Caladine n'avait pas rêvé son histoire ?» Pour une fois, Anno parut tant soit peu déconcerté. « Je ne sais encore, » dit-il, « achetons ce journal. » Mais avant qu'il fût un pas, un taxi doublait l'angle du Strand, s'engageait sur la Delphie, passait devant eux et s'arrêtait à la porte de Caladine. Une jeune fille en descendait. « Revenons, » dit Anno. Ricardo n'avait plus sujet de se plaindre. Il était 8h30 quand la première visite de Caladine avait dérangé la bonne ordonnance de sa vie à Grosvenor Square. À peine s'il en était 10 maintenant, et dans ce court espace de temps, il était allé de surprise en surprise. Il avait flotté de l'incrédulité à la croyance, de la croyance à l'incrédulité, et il n'avait pas plutôt vu, dans l'histoire qu'on lui avait contée, l'émanation d'un cerveau obnubilé par une drogue, que giflait par les faits. Il avait dû reconnaître la véracité de l'histoire. « Je revis, » pensait-il en revenant avec Anno. Son agitation était si grande qu'il ne se tint pas d'exprimer sa pensée. « Vous revivez ?» lui dit Anno. « Eh bien, il n'est pas de vie sans journal. Allez donc, je vous prie, au bout de la rue, en achetant à ce crieur qui s'égosille. Moi, pendant ce temps, je ne perds pas de vue la maison de Caladine. » Ricardo se hâta vers Charing Cross. Il en revint avec un numéro de Star qu'il remit tout plié à son ami. Anno le prit sans l'ouvrir. « Vous ne lisez pas ?» lui demanda impatiemment Ricardo. « Inutile, » répondit Anno, se hâtant d'enfoncer le journal dans une de ses poches. « Commençons par entendre Miss Carew avant d'avoir les idées brouillées par une information quelconque. » Ils regagnèrent la maison, montèrent, sonnèrent à l'appartement de Caladine. Une femme d'un certain âge vint leur ouvrir. « Monsieur Caladine est-il chez lui ?» demanda Anno. « Je vais voir, » répondit la femme. « Qui annoncerai-je ? Personne. J'entre. » Et sans plus de cérémonie, Anno prit le chemin du salon. Comme il poussait la porte, Ricardo, qui le suivait, vit soudain une jeune femme se tourner dans leur direction et reculer, épouvantée, comme si elle eût senti sur son épaule la main du constable. Au contraire, Caladine respira. « Voici les amis dont je vous parlais, » dit-il. Et présentant à Anno la jeune femme, « Miss Carew. » Anno s'inclina. « Vous allez me raconter votre histoire, mademoiselle, » fit-il avec une grande douceur. Un peu de sang colora les joues de Miss Carew. Son courage parut renaître. « Mais vous la connaissez déjà. Je voudrais la tenir de vous-même. » Ainsi fut dite, pour la deuxième fois dans cette pièce, l'histoire de la nuit. Mais cette fois, le soleil réchauffait le monde. Les bruits réconfortants de la vie quotidienne entraient par les fenêtres. La jeune femme portait le costume de drap bleu, modeste et banal, que 1000 autres jeunes femmes portaient ce matin-là dans leurs courses. Ces menues circonstances atténuaient la noirceur du récit, tellement que Ricardo en éprouva quelques déconvenues. Anno, lui, écoutait de ses deux oreilles, sans bouger, mais ses yeux exprimaient une compassion profonde. Jane, mise en confiance, ne parlait plus qu'à lui. Ah, certes, on n'eût guère reconnu chez elle l'être vivant, rayonnant, pétillant, fantasque, gaiement irresponsable, qu'avait conquis d'emblée Caladine. Elle n'était plus qu'une très jolie jeune fille, disant, à voix sourde, avec l'accent du remords, le tragique dilemme où elle s'était enfermée par sa faute. Son récit confirma point par point celui de Caladine. « Merci, » lui dit Anno, quand elle eut fini. « Il faut dès à présent que je vous pose deux questions. » « Je suis prêt à y répondre. » Ricardo dressa la tête. En fait de questions, il commençait de s'en formuler une troisième, qu'il jugeait ne pouvoir venir à l'esprit de Anno. Mais à la première que posa son ami, il faillit bondir de sa chaise. « Pardonnez-moi, Miss Carew, avez-vous jamais commis un vol ?» Jane fit un mouvement d'indignation, puis, changeant de figure. « Vous êtes en droit de me parler ainsi, » répondit-elle. « Non, je n'ai jamais volé. » Elle regardait Anno dans le blanc des yeux. Sans sourciller, les mains sur les genoux, il poursuivit son interrogatoire. Tantôt, en quittant cette chambre, vous aviez promis à M. Caladine d'attendre au Sémiramis son appel téléphonique. Oui. Cependant, vous étiez sorti quand il vous téléphona. Oui. Pourquoi? Parce qu'il me devenait insupportable de garder dans ma chambre le petit collier de brillants. Anno avait oublié cette complication. Il fut un moment comme dérouté. J'étais folle de peur, continua Jane. Je ne cessais de me dire, on doit avoir découvert le crime. On m'a perquisitionné partout. Couché dans mon lit, je m'attendais que d'un instant à l'autre on frappât à ma porte. Et puis, ce bijou, chez moi, cette chaîne, la chaîne de la morte, cela ne m'était plus tolérable. Cela me pesait comme si vraiment j'eusse commis un vol. Là-dessus, la femme de chambre m'apporta le thé. « Vous avez mis la chaîne sous clé ?»« Oui, la femme de chambre ne la vit pas. » Jane expliqua qu'aussitôt libre, elle s'était levée, habillée, qu'ensuite elle avait troussé la chaîne dans du coton et mis le tout dans une enveloppe. Une grande enveloppe d'un format suffisant pour contenir sa photographie avec la lettre d'introduction qu'elle destinait au directeur de Covent Garden. L'enveloppe fermée, j'écrivis soigneusement l'adresse en caractère d'imprimerie, Madame Blumenstein, Hôtel Sémiramis, Londres, puis j'allai moi-même la jeter dans la boîte à lettres du bureau qui est au coin de Trafalgar Square. Mais, intervint Ricardo, qu'arriverait-il si la lettre venait à se perdre? Anno éclata d'un rire féroce. « N'y eut-il aujourd'hui à Londres qu'une enveloppe promise à son adresse, ce serait celle-là » s'écria-t-il. « Savez-vous, Miss Carew, que la nouvelle du crime est déjà publique ?»« Non, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Eh bien, je vous l'annonce. » Avec un parti pris de lenteur qui exaspérait Ricardo, Anno étala son journal devant lui sur la table. « Voyons, » dit-il, « ce que peut avoir à nous apprendre l'informateur spécial de cette feuille. » Il n'y avait de nouveau qu'un détail dans les deux colonnes consacrées à la mystérieuse affaire. Madame Blumenstein était morte empoisonnée par des vapeurs de chloroforme. Elle était d'une constitution robuste et ses agresseurs s'étaient montrés fort maladroits dans l'administration de l'anesthésique. « Ce n'en est pas moins un assassinat, » dit Anno. Et ses yeux, pendant qu'il parlait, demandaient clairement à Jane Carew ce qu'elle comptait faire. « Je n'ai plus qu'à aller trouver la police, » déclara-t-elle lentement et douloureusement, mais d'un ton qui marquait une décision mûrement prise. Anno n'approuva ni ne déconseilla. Son visage resta neutre. Ce fut sans la moindre cordialité qu'il reprit. « Et que lui direz-vous, mademoiselle, à la police? Que vous êtes entrée chez Madame Blumenstein pour y contempler un collier de perles? Que vous y avez été attaquée par deux individus masqués en tenue d'apache? Oui. Mais combien croyez-vous qu'au bal du Sémiramis, il y eut d'individus vêtus en apache et portant le masque? Voyons, une centaine, au moins. Oui, peut-être une centaine. Alors, quel résultat aura votre confession, sinon de vous faire, comme on dit chez nous, grimper dans le coche ? » Du bout de l'index, la jeune fille dessinait sur la table des formes vagues. « N'importe, il faut que j'aille à la police, » répéta-t-elle. Elle avait levé puis rabaissé les yeux, et Ricardo fit la remarque qu'elle avait des cils très longs. Pour la première fois, les traits de Anno manifestèrent une détente. « Eh bien, mademoiselle, vous avez raison, » dit-il avec une chaleur qui ne laissa pas de surprendre Ricardo. « Parlez à la police, dites-lui toute la vérité avant qu'elle ne la soupçonne, et ne doutez pas que, dans la mesure du possible, elle ne s'applique à vous mettre hors de cause. Tenez, je vous accompagne à Scotland Yard. Merci, dit Jane. Et ils partirent tous deux en taxi. Anne revint seul à la Grosvenor Square où il déjeuna avec Ricardo. Tout va pour le mieux, déclara-t-il. La police s'est montrée fort bienveillante. Devant les gens de Scotland Yard, Jane a fait une déposition conforme à ce qu'elle nous a raconté. Déjà, par bonheur, ils avaient en main la chaîne de brillants parvenus dès le premier courrier à l'adresse de Madame Blumenstein. Cet envoi les intriguait beaucoup. Le récit de Miss Jane leur en fournit une explication rationnelle. Bref, ils m'ont paru disposés à la croire. Pour peu qu'ils soient sincères, peut-être ne la retiendront-ils pas même comme témoin. Elle pense donc rester à Londres, sans aucun doute. Elle va présenter ses lettres à Covent Garden et tâcher d'obtenir un engagement. Ce qui pourrait induire les criminels à s'imaginer qu'elle garde pour elle le secret du drame et que nul n'a connaissance du déguisement dont ils ont fait usage. Anne parlait d'un air dégagé, comme si tout cela n'eût offert qu'une médiocre importance. Mais Ricardo, avec une sagacité qui ne lui était pas habituelle, « Il est clair, mon ami, qu'à votre sentiment, ces deux hommes ne seront jamais arrêtés. » Anne leva les épaules. « Un hasard est toujours possible, mais quel hasard ? Supposez que dans une chambre, on ait rassemblé 100 fusils, dont un seul est chargé, qu'au dehors de cette chambre, il y ait 100 pigeons, dont un blanc. Qu'on vous fasse entrer les yeux bandés, qu'en choisissant un fusil, vous tombiez juste sur celui qui est chargé, et qu'en tirant, vous abattiez juste le pigeon blanc. Telle est la valeur du hasard dont je parle. » Cependant, objecta Ricardo, les perles de Madame Blumenstein étaient d'un grand prix. Or, j'ai entendu, au cours d'un procès, témoigner des joailliers experts qui s'accordaient à dire que les perles d'un grand prix sont toutes connues. « C'est vrai, » dit Anne. « Impassible. Mais connues par quoi ? Par leur poids. Fort bien. Et n'avez-vous pas entendu dire aussi, dans la même circonstance, qu'une perle se pèse comme un oignon ? Non. C'est pourtant la vérité pure. » Ôtez une de peau à la perle, vous en diminuez que très peu la grosseur et la valeur, mais vous en changez le poids. Elle ne peut plus être identifiée, elle n'existe plus. Une autre, toute neuve, a fait son entrée dans le commerce. Qui sait si les perles de Madame Blumenstein ne sont pas à cette heure-ci en train de se transformer dans quelque secrète petite rue d'Amsterdam. Des jours passèrent. Londres était dans sa saison joyeuse. Le printemps accusait ses vers et ses ors. Les merveilleuses nuits tièdes de Londres conduisaient à de claires aurores et à des jours radieux. Anne s'initia au paysage boisé de la Tamise. Jane Carew, engagée à Covent Garden, y chanta Louise avec un succès considérable. Dans la mémoire des rares personnes qui s'en souvenaient encore, l'affaire du Sémiramis grossit la liste des mystères impénétrés. Mais, vers la fin de mai, elle rebondit à l'improviste. Jane Carew écrit bien à Ricardo qu'elle irait le voir dans la journée et souhaitait de se rencontrer chez lui avec Anne. Elle arriva au coup d'une heure. Elle était pâle, émue, et dans la même pièce de l'appartement où Ricardo avait entendu Caladine conter la visite qu'elle lui avait faite, elle conta une autre histoire, qu'il jugea plus étrange encore et même, oui, plus suspecte. « Voilà déjà quelque temps qu'il m'arrive ce que je vais vous dire. J'ai d'abord l'envie de venir vous trouver, puis je réfléchis que peut-être en différant un peu, mais jamais. » « Vous ne voudrez me croire. Je vous écoute, » dit Anne. Un rêve commença de hanter mes sommeils. Je revoyais la chambre du Sémiramis, les deux hommes déguisés et masqués, la forme raide sous le drap de lit, et chaque nuit, la vision revenait, pareille, impitoyable. Cet homme, au cou engoncé dans les épaules, qui marchait en se balançant, et dont la haute taille me dominait, et dont la main s'abattait sur ma bouche. Je redoutais bientôt d'aller me coucher. Je me secouais dès que je me surprenais à m'endormir, et pour me tenir éveillé, j'allumais toutes mes lumières. Je marchais. « Mais vous finissiez par succomber au sommeil, » fit Anne en souriant. « Seuls les vieillards y résistent. » « Oui, et mes nuits n'étaient plus que d'affreuses nuits. Lorsqu'enfin, il en va une... » Elle hésita, regarda successivement Anne et Ricardo. « Une où je vais glisser le masque. » La voix de Anne vibrait d'une sévérité brusque. « Qu'est-ce que vous dites ?» Dans un flot de paroles éperdues, Jane continua. « Je dis ce qui est. » Le masque glissa sur le visage de l'homme qui me tenait. Oh, rien qu'un peu. De quoi découvrir le front, pas davantage. Et puis, Ricardo se projetait à demi-heure de son siège, et le jugement critique luttait en lui avec le désir de croire à une révélation si poignante. Je m'éveillais dans les ténèbres. La scène continuait de vivre en moi. J'eus le temps, avant qu'elle s'effaçât, devient gravée dans ma tête l'image de l'apache avec le masque descendu sur le front.
« Quand cela se passait-il ? » demanda Ricardo.
« Il y a 2 semaines. »«
Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir à ce moment ?»«
J'ai même à attendre. J'espérais qu'une autre nuit le masque glisserait plus bas.
En outre, je ressentais le besoin, j'estimais indispensable de conserver en moi cette image, non point pour en parler, non pas même pour la regarder trop souvent.
Crainte de me mettre à imaginer le reste du visage et de trouver quelque chose de familier dans la silhouette et le port de l'homme.
Alors qu'en réalité, il ne m'était aucunement familier. Comprenez-vous cela ?
Conclut Jane, les yeux attachés sur Anneau.
Oui,
répondit Anneau, je vous suis pas à pas.
Il me semblait tenir une chance inespérée, de parvenir à la vérité. Je ne voulais pas la perdre. Mon point de vue était changé. Je ne redoutais plus de m'endormir par peur de rêver. Je ne désirais plus que rêver.
Seulement vous ne le pouviez pas, fit Anneau.
C'est vrai. Tandis qu'auparavant, malgré mes efforts pour me tenir éveillé, je m'endormais de fatigue, à présent que j'essayais consciemment de dormir. Je restais éveillé toute la nuit, et ce n'est qu'aux approches du matin que je tombais dans un lourd sommeil sans rêve.
Anneau s'inclina. Tel est l'illogisme des choses, Miss Carrow.
Sur ces entrefaites vinrent mes répétitions, reprit Jane. Et le chef-d'œuvre où j'allais me produire m'absorba dès lors tout entière. Chaque soir, quand j'allais me coucher, j'emportais dans les oreilles cette musique de Louise, où vibre l'appel de Paris. Et concevez-vous ce que c'est pour une jeune artiste que d'être admise à y faire ses débuts sur la scène de Covent Garden ?
Ricardo crut avoir trouvé l'occasion d'intervenir.
« Il est vrai, mon ami, dit-il à Anneau, que l'artiste vit replié sur lui-même, insensible aux événements extérieurs. »«
Merci, dit Anneau, d'un ton pénétré.
J'imagine que Miss Carrow peut poursuivre. » Le soir de mon début, continua-t-elle, je soupais, après la représentation, avec quelques amis.
Une grande artiste, Carmen Valéry.
Comme elle prononçait ce nom, Anneau eut un tressaillement presque imperceptible. M'honorait elle aussi de sa présence. Je rentrai chez moi, très excité, et dans la nuit, de nouveau, j'eus un rêve.
Ah !
Cette fois, le menton de l'homme masqué, ses lèvres, ses yeux étaient visibles. Il n'y avait plus qu'une bande noire en travers du visage. Et je pensais, que dis-je, je fus sûr que si cette bande s'effaçait, je reconnaîtrais l'homme. Elle s'effaça, 3 nuits plus tard. Et vous reconnûtes l'homme ? Je reconnus le visage, c'est tout. Je fus déçu. Jamais je n'avais parlé à cet homme, j'en suis encore sûr. Mais je l'avais rencontré quelque part.
Vous rappelez-vous du moins à quelle époque ?
Non.
Miss Carrow réfléchit une minute, puis, avec un geste de désespoir,
« Non. J'ai beau fouiller dans mes souvenirs, je ne me le rappelle pas. »
Anneau posa à Miss Carrow cette question qui semblait sans rapport avec le sujet.
« Comment avez-vous passé la soirée, mademoiselle, avant la nuit, où pour la première fois, votre agresseur vous apparut sans masque ?»
Jane réfléchit, ses traits s'éclairèrent.
« Je sais, répondit-elle, j'étais allée à Covent Garden, en spectatrice.
Qui donnait-on ?
Les bijoux de la Madone. »
Anneau fit un signe de satisfaction, où Ricardo comprit qu'il attendait cette réponse.
« Bon, dit-il, pour ce qui est de n'avoir jamais parlé à l'homme auparavant, vous en êtes très sûr,
très sûr. »
« Voyons, pourtant... » Jane Carrow rapprocha sa chaise de la table, arc-bouta ses coudes sous son menton et planta ses yeux dans les yeux de Anneau. « Vous êtes, dit-il, venu de New York par la Lucania. »«
Oui.
Est-ce au déjeuner ou au dîner sur le navire que vous auriez pu voir votre homme ?»«
Non.
Donc, pas dans la salle à manger, à un moment quelconque. »«
Pas de salle à manger. » »«
Ni peut-être au salon de lecture, un jour, par hasard, en levant la tête, pendant que vous faisiez votre correspondance. »«
Non. » »«
Ni sur le pont promenade. » »«
Ne sera-t-il point passé devant vous ? Ne serez-vous point passé devant lui ?»«
Non. »
Pas à pas, il la conduisit à son hôtel de New York.
Il lui fit refaire ses voyages en chemin de fer.
Il l'emmena à Milan, où elle avait étudié la musique.
Ricardo s'émerveillait de le voir aussi renseigné sur l'existence d'une personne qui aspire au métier de cantatrice. De Milan, il ramena Miss Carrow à New York. Soudain, elle jeta un cri. Anneau, avec un frémissement joyeux, s'exclama. « Nous y sommes !» Puis il tira de sa poche un mouchoir dont il s'épongea les tempes.
« Ouf !» grommela-t-il.
C'est un travail qui donne chaud que de faire de la concentration mentale. Miss Carrow, nous vous écoutons.
Miss Carrow s'empressa de déférer à l'invitation. Elle chantait un après-midi à New York, chez une Madame Starling, dans la 5e avenue. Étrangère à la ville, elle se sentait nerveuse. Une espèce de brouillard confondait tout devant elle. Mais quand elle eut fini de chanter, le brouillard se dissipa, et comme elle descendait de la scène improvisée, elle aperçut l'homme, debout au centre d'une rangée dans le fond de la salle. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle le remarquât, sauf qu'il ne lui prêtait aucune attention. Et le fait est qu'elle l'oublia très vite. Par chance, je l'avais distingué nettement. Il était grand, tout rasé, brun, relativement jeune, 35 ans environ, la face lourde, une tendance à l'obésité. Il quitta sa place au moment où je saluais le public, et je vis ensuite qu'il allait et venait, les épaules hautes, se dandinant, causant avec des gens. Pourriez-vous me dire avec qui ? Non. Et lui, croyez-vous qu'il vous remarqua ? Je suis certaine du contraire. Il ne regardait même pas la scène au moment où je chantais. Il ne me regarda pas davantage plus tard. Autant que lui permettaient ses souvenirs, elle cita les noms des invités qu'elle connaissait, les chanteurs inscrits au programme, Carmen Valéry, entre autres. « Et c'est tout, » conclut-elle. « Merci, » lui dit Hanno. « Ce tout-là peut être beaucoup. Il peut n'être pas grand-chose. »« Vous me tiendrez au courant, j'espère ?» demanda-t-elle en se levant. « Miss Carew, je suis à votre service. » Elle lui tendait une main timide. Il la serra vigoureusement. Pour Ricardo, elle n'eut qu'une inclinaison de tête où elle lui donnait à comprendre que, se méfiant d'elle, il n'avait pas le droit de s'offenser. Puis elle sortit, et par-dessus la table, Hanno sourit à Ricardo. « Oui, » dit-il, « ce que vous pensez se justifie de reste. Un homme qui s'est retranché du monde pour satisfaire en paix son vice, une jeune fille qui, quoiqu'elle s'en défende, a tenté de le voler, et brochant sur le tout cette histoire extravagante. Refuser d'en croire un mot n'est que trop naturel. » Mais déjà, nous ne croyons pas un mot de ce que nous avait raconté le jour où nous sortîmes de chez Caladine. Nous avions tort, pourtant, et nous avons dû le reconnaître. Que cela nous serve de leçon. Est-ce à dire que vous auriez une idée ? Peut-être. Hanno prit le Times, et après un coup d'œil jeté à la colonne des théâtres. Si nous nous divertissions un peu, ce soir, en allant au spectacle ? Vous êtes le plus irritant des hommes, éclata Ricardo. J'aurai à faire votre portrait que je vous représenterai un doigt contre une aile du nez, la bouche entrouverte, comme pour dire avec mystère. Moi, je sais. Lors même que vous ne savez rien. À cette sortie, Hanno répliqua par une singerie de potache. Nous irons ce soir à Covent Garden dans votre loge, et tout en écoutant la musique, vous m'expliquerez la théorie de la tonique solfa. Ils furent au théâtre avant le lever du rideau. La loge de Ricardo était au premier rang et voisine de la grande loge. « Nous sommes près de la scène, tant mieux, » fit Hanno, s'asseyant dans un coin et disposant l'écran de manière à voir sans être vu. La salle était comble, les fauteuils et les loges étincelaient du feu des bijoux, de l'éclat des toilettes. « Merveilleux, » dit Hanno, « que joue-t-on ? » Il regarda son programme. « Tiens, les bijoux de la Madone. »« Vous croyez au présage ? » lui demanda Ricardo, encore piqué des rebuffades qu'il avait subies dans la journée. « Non, mais je crois que Carmen Valéry est tout à son avantage dans cette œuvre. » Monsieur Ricardo appartenait à cette catégorie de critiques qui ont besoin de se gâter leur plaisir par des comparaisons, par le rappel d'autres grands artistes. Ce soir-là, l'œuvre étant nouvelle, il s'y retrouvait mal. Il imaginait des interprètes différents dans le même rôle, quand vint la scène finale du deuxième acte où Carmen Valéry subjuguait l'auditoire. « Ah » soupira-t-il. « Avec quelle puissance Emma Calvé eut dégagé la psychologie de cette pièce ?» Et il fut vexé de voir Hanno, la jumelle aux yeux, perdue dans une contemplation muette. Le rideau se releva plusieurs fois, Hanno ne bougeait toujours pas. « C'est fini, » dit Ricardo quand le rideau fut retombé pour la 5e fois. « Attendez donc, » répondit Hanno. Les plis du rideau s'écartaient. Carmen Valéry reparut dans l'éblouissante clarté de la rampe et la fulguration des joyaux accrochés à sa gorge. Alors seulement, Hanno détacha ses yeux de sa jumelle pour se tourner vers Ricardo. « Quelle soirée !» dit Hanno. « Quelle magnifique soirée !» Et il applaudissait à faire craquer ses gants. La représentation terminée. « Couronnons galamment cette fête. Allons souper au Sémiramis. » Il avait retenu d'avance sa petite table derrière un paravent vitré, dans la profondeur de la salle, et le dos tourné au mur, il regardait entre les groupes. Soudain, il s'illumina. « Voilà Carmen Valéry, » annonça-t-il. « Décidément, le hasard nous favorise. N'est-ce pas qu'elle est belle ?»« Coussi coussa, » fit-il. « Peste ! Eh bien, son compagnon va vous intéresser davantage. Il se nomme André Favard, et il est l'assassin de Madame Blumenstein. Ricardo fit un tel bond que son monocle détaché de l'arcade sourcilière alla taper au bout du ruban contre les boutons de son gilet. « Quoi ? Que dites-vous ? Mais c'est impossible !» Il ramena son regard sur l'homme. « Évidemment, si j'en juge par le portrait qu'en a fait Jane Carew. » Il se retourna, interdit, vers Hanno, et tandis qu'il le considérait, tout ce qu'il se rappelait de l'inspecteur français, en particulier la promptitude et la finesse d'esprit que dissimulait sa pesante enveloppe, tout concourait à le convaincre. « Depuis quand êtes-vous si bien informé ? » murmura-t-il avec une admiration mêlée de crainte. « Depuis ce soir, 10 heures. »« Mais pour faire la preuve de son crime, vous aurez à retrouver le collier. » « Le collier, » dit nonchalamment Hanno, « il est retrouvé. » Si Ricardo soupirait après le grand frisson, il fut satisfait, il lui dans l'échine. Il se ressaisit néanmoins pour regarder, avec tout le détachement dont il fut capable, le couple en train de s'attabler. Autant l'homme était morose, glacé, autant Carmen Valéry émettait ce rayonnement de l'artiste qui cueille les fruits du triomphe. C'était une femme de 30 ans, indéniablement belle, visage clair et pâle, aux yeux sombres comme la nuit. Elle serait donc aussi impliquée dans le crime ? Elle ? Protesta l'inspecteur avec énergie. Elle est aussi complètement innocente du vol que du meurtre. Elle en ignore le premier mot. C'est André Favard, qu'elle aime follement. Oui, je vous l'abandonne, mais elle ? Une femme bête comme une oie, et qui a pour cet homme une passion que les mots ne sauraient rendre. Voulez-vous savoir à quel point une Carmen Valéry peut être bête ? C'est facile. J'ai prié M. Clemens, le directeur de Covent Garden, de venir souper avec nous. Et tenez, il arrive. Hanno se leva pour serrer la main du directeur. Clemens avait, des gens du théâtre, une expérience déjà longue, et il en parlait avec un cynisme jovial. Il ne tarissait pas d'anecdotes. Et Carmen Valéry ? Lui glissa tout doucement Hanno dans une pause. Ne vous cause-t-elle pas trop d'ennuis, cette saison ? « Dites qu'elle m'en a causé beaucoup, » répondit Clemens. « Pour le quart d'heure, elle fait la gentille. »« Mais elle m'a mis le sang en révolution, il y a quelques semaines. » S'adressant à Ricardo, « Elle est superstitieuse en diable, et Favard le sait. »« Elle l'avait au printemps laissée derrière elle en Amérique. »« En Amérique ?» s'écria Ricardo, si surexcité que Clemens s'en fut surpris. « Elle avait chanté tout l'hiver à New York. »« Je me félicitais qu'elle lui eût laissé Favard. » quand un jour elle m'arriva comme folle. Elle venait de recevoir un câblogramme. Elle ne pouvait, me dit-elle, chanter le vendredi soir. Favard avait tiré les cartes. Un valet noir était sorti près d'un œuf de carreau. Elle ne chanterait pas pour un empire. Et j'avais, ce vendredi-là, une première, les bijoux de la Madone. Imaginez la situation où je me trouvais. « Que fîtes-vous ? » demanda Ricardo. « La seule chose que je puisse faire. J'expédiais quelque argent par câble à Favard. » Il tira de nouveau les cartes, et Carmen me revint radieuse. Une reine rouge était sortie, cette fois près d'un as de cœur, et elle pouvait chanter sans scrupule, à moins qu'elle ne croisât un enterrement sur le chemin du théâtre. Mon bon génie s'arrangea pour qu'elle n'en croisât pas. Mais grâce à mon argent, Favard put quitter l'Amérique, rejoindre Carmen, et depuis lors je vis dans les transes. Cet homme est le plus parfait gredin qui ait encore échappé à la corde. Il la traite comme une ville poussière, ne met les pieds au théâtre que lorsqu'elle chante les bijoux. Et la pauvre fille se prosternerait où il marche. Allons, voici l'heure de partir. On avait diminué les lumières, la salle se vidait. Ricardo et ses amis se levèrent de table, mais à la porte, Hanno retint Clemens, qu'au grand dépit de Ricardo, il entretint un moment en tête à tête. D'ailleurs, quand il rejoignit Ricardo, il était content pour deux. Cher ami, ne m'en veuillez pas, je m'occupais de vous être agréable. Vous nourrissez pour le drame lyrique une passion que je veux satisfaire. Je devais quitter Londres demain, je vous reste jusqu'à vendredi. Ricardo mourait d'envie de le questionner, mais il savait, le connaissant trop, qu'il n'en obtiendrait pour l'instant aucune réponse. Il passa une partie de la nuit à ruminer le problème, et le lendemain matin, au breakfast, il arriva fatigué, mais triomphant. Hanno, déjà installé à table, brisait la coque d'un œuf. « Je vois, » dit-il, « que vous tenez tout le secret de l'affaire ?» et plongeant sa cuillère dans son œuf. « J'ai hâte de vous entendre. » Monsieur Ricardo n'avait pas besoin qu'on l'aiguillonnât. « Eh bien voilà. Jane Carew avait vu Favard au concert de Madame Starling Il l'y avait vu avec Carmen Valéry, puisque Carmen Valéry se trouvait là. Il me souvient qu'interrogé par vous sur les chanteurs qui figuraient au programme, Jane vous avait nommé entre autres Carmen Valéry. Anna salua parfaitement. Nul doute que Jane Carew n'eût remarqué tout particulièrement Carmen Valéry et pris à son insu, dans son cerveau, une image complète de cet André Favard qui accompagnait la cantatrice. Nouvel assentiment de Anna. Puis elle oublia tout à fait l'homme, mais le portrait en restait latent au fond de sa mémoire. Anna, cette fois, leva les yeux avec un étonnement si manifeste que Ricardo en fut flatté. Nous arrivons au drame du Sémiramis. Jane Carew ne reconnaît pas consciemment son agresseur, mais à diverses reprises, elle rêve de la scène et par un processus cérébral inconscient, la silhouette de l'homme lui devient peu à peu familière. Enfin, elle débute au théâtre, elle soupe après la représentation et dans la salle où elle soupe, elle revoit Carmen Valéry. Oui, pour la première fois depuis le concert de Madame Starling. Elle rêve encore. Elle se souvient mieux dans le sommeil qu'à l'état de veille. La présence de Carmen Valéry au souper produit son effet sur elle. Par une association d'idées, elle se rappelle Favard et sa démarche très caractéristique. Le masque découvre légèrement le visage de son agresseur. À quelques jours de là, elle va entendre Carmen Valéry dans les bijoux de la Madone. Sa sensibilité est remuée par une interprétation dont je reconnais aujourd'hui la puissance. Elle va se coucher, la tête pleine de Carmen Valéry, et ce n'est pas de Carmen qu'elle rêve, mais de l'homme que dans son subconscient elle rattache à Carmen. Le masque tombe, elle voit à présent le criminel, elle en a dans l'esprit le portrait en pied, elle le reconnaîtrait si elle le voyait dans la rue, bien qu'elle ignore par quel moyen elle l'a identifié. Oui, dit Anna, c'est un fait curieux que le cerveau continue de travailler quand le corps se repose et que le songe révèle ce que la pensée ne se rappelle pas. Ricardo frétilla d'aise, on le prenait au sérieux. Ricardo attendit fiévreusement le jeudi. Au déjeuner du matin, Anna a fait cas de n'aborder dans la conversation que les nouvelles courantes. Pareillement à midi. L'affaire du Sémiramis semblait à mille lieues de ses préoccupations. Mais à 5 heures, il dit, en buvant son thé, « Vous savez que nous revenons ce soir à Covent Garden, hein, et que votre ami Caladine doit nous y rejoindre dans votre loge. Ce qui est fort obligeant à lui, j'en suis sûr. » Les deux hommes arrivèrent de bonne heure. Dans le couloir encombré, un étranger, en passant près de Anna, lui adressa quelques mots que Ricardo ne saisit point. À peine eut-il pris place dans la loge que Anna consulta son programme. « Tiens, fit-il, le bal masqué. C'est comme un fait exprès. Nous tombons toujours sur une pièce de circonstance. Oh, voyez-vous ça? Notre charmante amie Jane dans le rôle du page. » Quelques minutes plus tard, Caladine entra dans la loge et leur serra les mains. Il semblait gêné. « Merci de l'aimable invitation, leur dit-il. » Et s'asseyant entre eux, il dirigea immédiatement son attention sur la salle qui se garnissait très vite. « Voici l'ouverture, » dit Anna. Puis le rideau se divisa, les chanteurs entrèrent en scène. Jane Carew s'était déjà fait un petit renom. Quand vint le tour du page, les applaudissements l'accueillirent. À ce moment, Caladine étouffa un cri et se rejeta au fond de la loge. Ricardo, tout d'abord, n'y comprit rien. Il s'avisa seulement que Jane, dans son costume de garçon, avait une tournure infiniment gracieuse et pimpante. Ce n'est qu'après avoir plusieurs fois laissé courir son regard du programme à la scène, de la scène au programme, qu'il commença de s'expliquer l'émoi de Caladine, et il fut transi d'horreur. Anna, dans sa rage des effets dramatiques, avait dû perdre la tête. Jane, effectivement, portait le même travesti que dans la tragique nuit du Sémiramis. Ricardo se pencha vers Anna. « Vous êtes fou! Supposez que Favard soit au théâtre et qu'il voit Jane. Demain matin, il aura filé sur le continent. Ta, ta !» fit Anna. « Premièrement, on vous l'a dit l'autre soir. Favard ne vient jamais au théâtre que pour une seule pièce, où Carmen Valéry tient le principal rôle. Deuxièmement, il n'est pas dans la salle. Il est dans un tripot de Dean Street. Troisièmement, il ne pourrait pas, le voulut-il, partir pour le continent par le train de 9 heures, mais dispositions sont prises pour l'en empêcher. Quatrièmement, il ne le voudra pas, ayant les meilleures raisons de rester à Londres. Mais il viendra tout à l'heure au théâtre. Clemens va lui envoyer un message le convoquant d'urgence. D'ici là, soyons tout au plaisir de l'heure. » Quand le rideau fut baissé, Anna suggéra. « Si nous allions la complimenter. » Ils franchirent la porte de fer, traversèrent les coulisses. Devant eux, les loges d'artistes alignées, au long d'un grand corridor, leur double rangée de portes. Deux ou trois hommes en habit étaient là, qui avaient l'air d'attendre. À la troisième porte, Anne s'arrêta et frappa. Jane Carew vint lui ouvrir. Elle avait gardé son costume vert et or. Le trouble de son visage et de ses yeux décelait la peur. « Courage !» lui dit Anne, et passant prestement devant elle, il ajouta. « Autant vaut qu'on n'aperçoive pas trop vite, ma vilaine figure. » La porte de la loge s'était à peine enfermée sur lui, que le directeur s'approchait, flanqué d'André Favard, et discutant avec lui leur engagement de Carmen Valérie pour la saison suivante. « Mon cher ami, disait-il, nous devons prévoir de loin, et si pénible qu'il dût être pour moi de... » Ils arrivaient devant la loge de Jane. La porte s'ouvrit. Jane sortit, la repoussa nerveusement derrière elle, et Favard se retourna en bruit, vit la jeune femme se dresser contre le panneau, épouvantée, livide, telle, par l'attitude, la silhouette, le costume, que la nuit où elle l'avait surpris dans la chambre de Madame Blumenstein. Jane, ici, n'avait pas besoin de jouer un rôle. En présence de cet homme, sa terreur était aussi sincère que la nuit du bal au Sémiramis. Elle tremblait. Ses yeux se fermèrent, elle parut près de défaillir. Favard proféra un juron. Il blêmit, chancela comme à la vue d'un spectre, s'élança pour fuir. Les deux hommes en habit le happèrent et le maintinrent. Recouvrant son aplomb, il cessa de se débattre. « Que signifie ? » demanda-t-il, « une pareille insulte ?» L'un des deux hommes produisit un mandat d'arrêt. « Nous vous arrêtons comme auteur présumé du meurtre commis à l'hôtel Sémiramis sur la personne de Madame Blumenstein. » Et tirant un carnet de sa poche, « Je vous préviens que tout ce que vous pourrez dire sera noté pour être, le cas échéant, invoqué à votre charge. »« Mais c'est absurde !» s'exclama Favard. « Je suis victime d'une erreur grossière. Allons nous expliquer devant la police. Où sont vos preuves contre moi ?» Anne sortit de la loge. « Au magasin des accessoires, » dit-il. Favard, en le voyant, jeta un hurlement de rage. « Alors vous en êtes aussi !» Il bondit pour l'empoigner à la gorge, mais il ne rencontra que le vide. On le maîtrisa, on le coucha par terre, on lui mit les menottes, on l'emmena. Dans les corridors, Ricardo s'aperçut que Caladine n'était plus avec eux. Il le chercha du regard et le vit planté devant la loge de Jane. « Ne croyez-vous pas, dit-il, que Caladine nous accompagnerait volontiers ?»« Il n'est plus un enfant, » répondit Anne, « il sait ce qu'il doit faire. » Sur ce, prenant par le bras Ricardo ahuri, Anne l'entraîna au magasin des accessoires où déjà les avait devancés un inspecteur de la police. « Que désirez-vous exactement, monsieur ?» demanda au directeur le chef accessoiriste. Ce fut Anne qui répondit. « Les bijoux de la Madone. » Le chef ouvrit une armoire, en retira la scintillante parure. Et là, parmi les gros cailloux de couleur, Anne fit voir, mêlés aux perles fausses, les merveilleuses perles de Madame Blumenstein. « Voilà donc, » s'écria Ricardo, « pourquoi Favard ne manquait pas de venir au théâtre quand on donnait les bijoux de la Madone ?»« Il venait surveiller son trésor, » dit Anne. Ricardo rassemblait les pièces du puzzle. Il avait dû connaître en Amérique l'existence du collier. Il l'aura suivi en Angleterre. Les perles de Madame Blumenstein étaient en effet célèbres à New York. « Mais le cacher ici, » intervint le directeur, « c'était de la démence. En quoi ?» dit Anne. « Imaginez-vous une plus sûre cachette. Qui donc aurait eu l'idée de cambrioler vos armoires pour y chercher, entre vos bijoux de théâtre, un collier de perles inestimables ?» Il est de fait que, sans aucun doute, les perles eussent été confortablement reposées ici toute la saison. Ensuite, toquée comme elle l'est et n'ayant aucune notion de leur valeur, Carmen Valérie les eut jetées au hasard de son cabinet de toilette. Et vers la fin de juillet, quand le meurtre de Sémiramis fut devenu de l'histoire ancienne, Favard les eut emportées à Amsterdam pour les vendre. Anne et Ricardo quittèrent ensemble le théâtre pour gagner à pied le Sémiramis. Comme ils arrivaient à la porte vitrée du Grill Room, Anne, sur le point de la pousser, recula. « Nous n'entrons pas, je suppose. Pourquoi ? Eh, mon ami, laissons faire les choses. » « Qui sait si d'ici peu la garçonnière de l'Adelphie ne sera pas libre ?» Ils s'en retournèrent. Anne avait raison. La saison n'était pas terminée, que Ricardo dut mettre la main à la poche pour un cadeau de noces. Ainsi s'achève la nuit tragique de Sémiramis par A.E.W. Mason.